Europe On Air avec les centres Europe Direct.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Europe On Air, votre chronique présentée par les centres Europe Direct de Lorraine, Christelle et Citoyens et Territoires Grand Est. Aujourd'hui, place à l'actualité. La semaine dernière, c'était le départ du 10e Français dans l'espace. Ce sera l'occasion pour nous de vous parler de l'implication de l'Union Européenne dans le cosmos. En effet, l'astronaute Thomas Pesquet a décollé du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan le 17 novembre dernier à bord d'un vaisseau Soyouz pour la station spatiale internationale. Mais quel est le rôle de sa mission à Thomas Pesquet ?
Proxima, c'est le nom de la mission que Thomas Pesquet devra mettre à bien au cours des quelques 180 jours qu'il va passer en quasi-apesanteur. L'intérêt de la Station Spatiale Internationale par rapport à un laboratoire terrestre est sa quasi-absence de gravité qui présente un intérêt particulier, notamment dans les sciences de la matière. L'une des expériences au programme vise par exemple à mieux comprendre comment un métal passe de l'état solide à l'état liquide ou inversement. Toutefois, si la plupart des disciplines scientifiques vont être couvertes par la mission Proxima, c'est l'étude des effets de la microgravité sur le corps humain et le système nerveux qui domine. Quelle est la place occupée par l'espace dans notre société ?
Dans de nombreux domaines, des télécommunications à la télévision, en passant par les prévisions météorologiques et les systèmes financiers mondiaux, nos sociétés ont besoin des systèmes spatiaux et des technologies spatiales. Cependant, l'échelle même des projets spatiaux les rend inaccessibles pour la plupart des pays. Les pays européens ont alors mis en commun leurs capacités technologiques et financières pour mener une politique spatiale par l'intermédiaire de la Commission européenne, en coopération avec l'Agence spatiale européenne, ou ESA, qui est un organisme intergouvernemental regroupant 22 États membres européens. Concrètement, qu'est-ce que c'est l'ESA ?
Le travail de l'ESA consiste à élaborer le programme spatial européen et à le réaliser. Les programmes de l'ESA sont conçus pour en savoir plus sur la Terre, son environnement spatial immédiat, notre système solaire et l'univers, ainsi que pour développer des technologies et des services satellitaires et promouvoir les industries européennes. L'ESA travaille également en étroite collaboration avec des organisations spatiales en dehors de l'Europe. Quelles sont les institutions européennes qui participent à la thématique spatiale ?
Si l'Agence spatiale est un organisme intergouvernemental, l'Union européenne a son rôle. L'une des formations du Conseil de l'UE, je le rappelle, c'est là où siègent les ministres, c'est le Conseil compétitivité qui a pour mission de renforcer la compétitivité et la croissance de quatre grands domaines : marché intérieur, industrie, recherche et innovation et l'espace. Dans le domaine de la recherche, de l'innovation et de l'espace, le Conseil vise à renforcer la base scientifique et technologique de l'industrie européenne de manière à stimuler sa compétitivité à l'échelle internationale et à favoriser la croissance et l'emploi. Il collabore en outre avec l'Agence spatiale européenne pour élaborer la politique spatiale européenne.
Quant à la Commission européenne, elle a identifié quatre objectifs clés pour mettre en place une stratégie européenne de l'espace. En effet, avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, les États membres ont conféré à l'UE un rôle plus important dans le domaine spatial. Ainsi, la Commission européenne souhaite promouvoir le progrès technique et scientifique, encourager l'innovation et la compétitivité industrielle, s'assurer que les citoyens européens bénéficient pleinement des applications spatiales européennes et renforcer le rôle de l'Europe dans le domaine de l'espace à un niveau international.
Cette stratégie européenne de la défense vient justement d'être éditée fin octobre dernier. Alors comme on est sur l'espace, on va écouter une chanson spatiale, Life on Mars, du regretté David Bowie, décédé cette année.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. Daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eye of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Is there life on Mars?
Popeye's tortured brow that Mickey Mouse has grown up the cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, and I ask you to focus on
retour sur votre émission Europe en mer. Aujourd'hui, on parle du rôle de l'Union européenne dans l'espace. Vous venez d'écouter Life on Mars de David Bowie. Quelles sont les politiques spatiales européennes mises en œuvre? La politique spatiale européenne comporte 4 grands volets. Copernicus, Galileo, EGNOS, l'exploration et enfin la recherche. Tout d'abord, commençons par Copernicus, le programme civil d'observation de la Terre, le plus ambitieux jamais mis en place. C'est un ensemble de systèmes complexes qui recueillent des données sur la Terre grâce à des satellites et des capteurs sur Terre, dans le ciel et en mer. Il est destiné à fournir aux responsables politiques, aux entreprises et aux citoyens des informations fiables et actualisées sur la façon dont la planète et son climat évoluent. Ces informations contribuent à prévoir l'évolution des tendances climatiques. Les données recueillies dans le cadre de ce programme Copernicus ont de nombreuses autres applications, notamment pour l'aménagement du territoire, la protection de la nature, l'agriculture, la santé, la réaction aux catastrophes, les transports ou encore le tourisme. Copernicus est coordonné et géré par la Commission européenne. L'infrastructure satellitaire est gérée par l'Agence spatiale européenne, tandis que les capteurs sont mis au point par l'Agence européenne pour l'environnement et les États membres.
Galileo est le système mondial de navigation par satellite de l'UE. Il s'agit de l'équivalent européen du système de géolocalisation américain GPS et du système russe GLONASS. Galileo est le premier système civil de navigation par satellite. Il est compatible avec les systèmes américains et russes, mais indépendant de ceux-ci. Et il est plus précis que le GPS. Le réseau comptera 30 satellites et sera achevé d'ici 2020. Il a fourni ses premiers services en 2016 et est désormais opérationnel. Les exemples d'applications potentielles de Galileo sont nombreux et variés. On peut citer la gestion du trafic et des transports, les opérations de sauvetage ou encore l'agriculture. Les investissements de l'UE dans Galileo devraient permettre de créer de nouveaux emplois et débouchés commerciaux dans le secteur des récepteurs de signaux satellitaires et des applications satellitaires.
Si Galileo donne une souveraineté à l'Europe en termes de matière GPS, en créant son propre système, les Européens avaient déjà travaillé à améliorer le système GPS américain via le système EGNOS, système satellitaire européen, en le faisant passer de 10 mètres dans le système américain à près de 2 mètres de précision. Il avertit aussi les utilisateurs des problèmes concernant les signaux GPS. EGNOS utilise notamment 3 satellites pour corriger les erreurs du GPS et de fournir des données de géolocalisation plus précises. Mais contrairement à Galileo, EGNOS est un système pan-européen et non mondial et donc dépendant du GPS. Il s'agit d'un projet conjoint de la Commission européenne, de l'Agence spatiale européenne et de l'Eurocontrol, l'organisme chargé de la surveillance du trafic aérien en Europe. Quelques exemples d'applications d'EGNOS. Dans les domaines de l'aviation, il permet d'améliorer la navigation et l'amélioration des plans de vol plus rationnels. En matière de recherche et de sauvetage, il aide à l'atterrissage d'hélicoptères dans des conditions difficiles par exemple.
Un autre domaine de la politique spatiale européenne est l'exploration spatiale. L'exploration spatiale est un moteur pour l'innovation technologique et la recherche scientifique dans des domaines tels que le recyclage, la santé, les biotechnologies, la gestion de l'énergie et la surveillance de l'environnement. La coopération internationale est vitale car les programmes spatiaux coûtent très cher. L'UE participe activement aux discussions internationales sur la coopération dans le domaine de l'exploration spatiale, en particulier avec les États-Unis, la Russie et la Chine. Elle participe au Forum international d'exploration de l'espace, des réunions au niveau ministériel consacrées à la coordination et à la coopération internationale dans le domaine de l'exploration spatiale.
Dernier point, c'est la recherche. L'UE s'emploie à mettre en place une industrie spatiale européenne compétitive, indépendante et d'envergure mondiale. Si l'Europe souhaite maintenir ses activités spatiales et son accès à l'espace, elle doit impérativement renforcer son secteur spatial en stimulant la recherche et l'innovation. Des projets de recherche spatiale peuvent être financés par le programme de la recherche et l'innovation Horizon 2020, dans le cadre du programme de travail primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles. On a pu le voir l'année dernière, notamment avec l'exploration de la comète avec Philae.
Enfin, nous allons finir avec un autre point d'actualité. Dévier la course d'un astéroïde, est-ce que c'est possible? L'Agence spatiale européenne et la NASA se préparent à envoyer, dans le cadre de la mission nommée AIDA, un vaisseau contre un astéroïde afin de le dévier, dans l'éventualité où l'un d'entre eux menacerait la Terre. Ce danger reste limité puisqu'un astéroïde conséquent ne percute la Terre que tous les 10 000 ans ou plus, mais il ne faut pas sous-estimer cette possibilité.
On vous remercie de nous avoir écoutés pour parler d'Europe et d'espace. On se retrouve le mois prochain sur Europe en Air avec votre Centre Europe Direct. Merci.
Europe en Air avec les Centres Europe Direct.
Une émission réalisée par Christelle et Citoyens et Territoires.
Pour plus d'informations sur nos structures, n'hésitez pas à aller sur le site internet de Radio Fadjet, www.fadjet.net.